Qui c'est celui-là ?
Il a une drôle de tête, ce type-là.
Une émission d'entretien.
Et puis sa bagnole, les gars.
Avec quelqu'un.
Ça se passera pas comme ça.
T'as vu une émission d'entretien avec quelqu'un. Et alors en général, quand c'est Jacques Chancel qui faisait radioscopiste avec quelqu'un de vachement connu, eh ben moi je fais le contraire, je fais une émission avec quelqu'un qui sera plus connu au bout d'une heure qu'avant. Bonjour Morgane.
Bonjour Johan.
C'est Morgane Corello qui est avec nous, que vous avez déjà entendu parce qu'elle était, comment on va dire, chargée de communication bénévole à l'association Même sans le train, du temps que son métier lui laissait un peu de temps pour aller aux réunions, préparer les trucs, amener des artistes, puisque Même sans le train, peut-être on va en dire un mot, organise des résidences d'artistes, et ils ont tous trouvé que c'était la voix la plus claire, la plus décidée, la plus dynamique, la plus souriante, parce qu'une voix, ça peut être souriant, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Sauf que faire connaissance, pour de vrai, c'est aussi à savoir un peu plus sur la personne. Et ça, si on ne le décide pas, allez, pendant une heure, je t'écoute, eh ben, c'est des petits bouts de bribes par-ci, par-là. Alors moi, j'en ai appris à ton sujet. Par exemple, en te voyant dans des endroits où je ne m'attendais pas à te voir parce que je ne le savais pas. En même temps, quand je t'y ai vu, ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné que tu aies lu le dernier Victor de l'Arbol, toutes les vagues de l'océan, et que tu sois là pour lui poser des questions à Victor de l'Arbol, à Vaour, aux rencontres du Rial, organisées par l'association Vent Propice. Et je me suis dit, mais enfin, je ne sais rien de Morgane, je vais l'attraper, la coller sur un siège devant le micro, et pendant une heure, c'est elle qui va raconter. Alors dans cette émission, c'est tout simple. C'est toi qui as choisi les musiques, il faudra nous expliquer pourquoi.
Tout à fait.
Et mes questions, elles sont toutes bêta. C'est un retour en arrière, et on n'est pas obligé d'avoir 70 ans pour avoir eu une vie.
Bien remplie.
Mais les premières questions que je me pose, autant quand on arrive dans les villages maintenant, il y a un rond-point qui permet de faire demi-tour. Avant, il y avait juste des carrefours. Et ma première question, c'est ça, c'est quand tu te retournes dans ta vie, est-ce qu'il y a des moments où tu as conscience qu'il y a eu des carrefours et où tu aurais pu suivre un autre chemin ?
Ben oui, évidemment. Enfin, du haut de mes presque 43 ans, en effet, je me rends compte que quand je me retourne, ben il y a eu beaucoup de carrefours et que aujourd'hui j'ai une vie que je trouve très riche, justement parce qu'on me rencontre aussi dans des endroits où on ne m'attend pas. Mais je crois que tout à chacun, c'est un petit peu ça quand même. On fait des choix dans la vie qui nous amènent vers des moments, vers des choix, vers des rencontres. Et que ces rencontres, ces choix découlent vers d'autres moments et d'autres rencontres. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est de se rendre compte que chaque choix que l'on fait nous ouvre des portes assez incroyables, quoi. Je suis assez pour le saut dans l'inconnu,
ouais. Ouais, bon, en même temps, je vais pas ramener tout à moi, mais moi, par exemple, le premier grand changement, c'est pas moi qui l'ai décidé, j'avais 4 ans. Je suis né dans un endroit, je me retrouve à 600 km de cet endroit parce que mes parents ont fait ce choix et je me rends compte que c'était forcément un carrefour.
Eh oui.
C'est pas forcément soi-même qui choisit.
Non, il y a des fois ce que j'appelle des choix peut-être non choisis. La naissance, le lieu de naissance, sa famille, évidemment, on ne choisit pas sa famille, c'est bien connu. Là où on est, d'où on vient. Mais après, je pense que, évidemment, que ça nous imprime, que ça fait ce que nous sommes au départ. Mais je crois que ce que nous sommes au départ, nous le tenons dans la main et nous pouvons le faire aussi évoluer, avancer, changer de cap. Je crois en l'humain et là-dessus, nous sommes assez tout-puissants, quoi. Moi, je trouve.
Alors ça, c'est une grande certitude, une grande conviction, je ne sais pas comment dire. Tu dis que chaque jour, on peut se décider à... On peut savoir si on adhère à ses convictions de la veille, si on fait le chemin qu'il faut pour que ses convictions l'emportent pour demain.
Mais je crois que ce qui est important, c'est que même quand on se trompe, c'est de se dire, bah, c'est pas grave, j'ai le droit de me tromper aussi. Donc j'ai le droit de me planter, j'ai le droit de m'être trompé de chemin. Mais à partir du moment où je m'octroie ce droit, ça veut dire que je suis vivant, quoi. Donc c'est ça qui est important.
Vous êtes bien laxiste dans l'éducation, je trouve. Vous êtes bien tolérante avec vos errements.
Non, c'est pas une tolérance avec nos errements, c'est une... Je crois que c'est aimer la vie jusqu'au bout, au contraire, quoi. C'est pas des errements, je pense que... Et puis, errer peut être intéressant aussi, dans une vie, à condition de pas se perdre dans l'errance.
Oui, voilà. Alors par exemple, on va faire des allers-retours comme ça dans les cursus. Avoir une formation universitaire.
Ouais.
C'est, on décide d'avoir tel diplôme pour présenter tel concours, et du coup, on se fade, entre guillemets, les programmes trimestre par trimestre, etc. Et on peut renoncer. Il n'y a qu'à voir le taux d'échec en première année de n'importe quelles études, puis en deuxième année, puis en troisième, etc. Bon, voilà. Ça veut dire quoi? Qu'on avait choisi de faire tel truc, et tout le reste, eh ben, c'est de l'abnégation parce qu'il faut s'y tenir. Alors, où il est le jouissant sans entrave de tous les jours, là?
Eh ben, parce que je ne suis pas sur... Enfin, quand je dis ça, je dis pas que ça veut dire la jouissance sans entrave de tous les jours. Moi, les études, ça a été quelque chose d'important dans ma vie. L'école, c'est ce qui m'a sauvée, donc j'y croyais beaucoup. Pour ça que je suis devenue prof, peut-être.
Qui m'a sauvée de quoi ?
M'a sauvée de tout, je pense, quand j'étais plus jeune, quoi. Je viens plutôt d'un milieu modeste. J'ai été adoptée par des parents bretons qui vivaient à Brest, donc dans le Finistère, qui est cet endroit magnifique. Enfin, que j'adore.
Oui, il ne pleut que plusieurs fois par jour.
Il ne pleut que sur les cons, attention. Et donc, je m'appelle Morgane, qui veut dire née de la mer. Et c'est vrai que c'est un lieu assez incroyable. Mais très vite, j'ai eu conscience que ma vie était ailleurs, en fait. Très vite, j'ai eu conscience que pour partir, il fallait que je réussisse mes études.
C'est pas le syndrome Marius, je veux partir sur un bateau.
Non, moi, le bateau, c'était pas trop ça. Par contre, les voyages, oui. Quand tu grandis avec des horizons infinis, avec cette mer là qui t'envoie tout ce qu'elle peut t'envoyer d'émotions, le voyage est venu très vite quand même, en me disant il faut que je parte. Et les études, ouais, ont été une façon pour moi de partir. Après, être prof, c'est venu un peu plus tard. D'abord, il fallait que j'aille à Paris, il fallait que je monte à la capitale. Mais donc, il fallait que j'aie mon bac. Donc, j'ai tout fait pour avoir mon bac. Une fois que j'étais à la capitale, bah, il a bien fallu se démerder pour manger, vivre, payer son loyer, etc. Et continuer mes études. Et puis, j'ai décidé d'avoir le concours pour être prof. Et donc, quand j'avais décidé d'avoir le concours pour être prof, je l'ai eu.
Prof de quoi ?
Français, histoire, géo en lycée professionnel.
Quoi ? C'est un vrac, ça. Il n'y a pas une préférence pour la géo ?
Et ben, en fait, j'ai un cursus plutôt littéraire. Pour le concours, et ben je me suis retrouvée à bosser de l'histoire alors que j'avais pas fait d'histoire depuis le lycée, et j'ai découvert une vraie passion pour l'histoire. Ouais. Donc du coup, je me suis engloutie pendant peut-être 10 ans que des bouquins d'histoire, histoire de rattraper ce que j'avais pas bossé au lycée, quoi.
Alors ça, c'est terrible, hein, quand on a l'impression qu'on n'a pas fait le truc en temps et en heure. On en fait trop après, non ?
Mais c'est pas terrible, au contraire. Moi, je trouve que tout vient à point pour qu'ils aient à attendre, et que si je l'avais pas fait au lycée, c'est parce que j'étais une littéraire, on va dire, pure et dure. Donc le français, la philo, les langues, il y avait jamais de problème. Et puis l'histoire, j'étais peut-être trop jeune pour me rendre compte l'utilité, l'importance que ça avait dans la vie. Et j'ai découvert ce que c'était en le bossant pour le concours. Et là, une vraie passion. Donc, c'est pas trop tard. C'est juste que parfois, il faut attendre le bon moment pour que les choses se fassent aussi.
Oui, vaut mieux ouvrir la fenêtre quand il y a du soleil que quand il y a du vent. Mais toute petite déjà, l'idée de faire comme la maîtresse, c'est quoi l'image d'être enseignant quand on est petit ?
Je voulais pas l'être petite. Je crois que petite, quand on me posait la question, moi je me vois encore à 13-14 ans dire « moi plus tard j'aurai un sac à dos et je ferai le tour du monde ». C'était plus ça mon idée au départ.
Et en même temps, 13 ans, 43 ans, il y a 30 ans, si on calcule... C'était quoi, 85, les années 80?
Ouais, c'était ça, c'était les années 80.
Ça y est, c'était le confort, tout était acquis.
Je sais pas, je crois que j'avais pas d'idée précise. Ah si, je voulais être aussi comédienne. Ça, par contre, c'était un truc qui m'est resté très 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 longtemps.
Ah mais ça, on va en parler, forcément. Hein.
Et donc voilà que j'ai mis du temps à digérer aussi, à voir, me dire que c'était possible, mais on en reparlera. Mais voilà, je voulais être comédienne, ouais, je passais ma vie au cinéma ou dans les bouquins, donc tu vois, tout allait ensemble. Et puis
à
voilà.
À Brest.
À Brest, non mais à Brest, c'est un paysage magnifique, hein, pour divaguer.
Oui, mais j'imagine, c'est plutôt les bouquins et le cinéma. Peu de théâtre, peut-être ?
Peu de théâtre, ouais, mais je faisais des cours, je prenais des cours de théâtre.
Ah !
Donc, peu de théâtre, mais voilà, des petits cours comme ça. Et puis, ouais, donc ça m'a permis de sortir aussi un petit peu des choses de moi-même, du quotidien. Ouais.
Tom Waits, pourquoi Tom Waits ? C'est déjà les voix, la comédie, la présence, c'est quoi ?
Les voix, et, ouais, c'est une présence, quoi, une présence incroyable qui passe dans la voix. Tom Waits, pour ses paroles, qui ne sont pas toujours traduisibles d'ailleurs, mais je suis contente parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, enfin il y a un an ou deux, via Même sans le train d'ailleurs, un spectacle sur Tom Waits en français où ils ont fait quelque chose d'assez dingue, c'est vrai. Et Tom Waits parce que ouais, la voix me bouleverse, me transporte, me perce de part en part. C'est assez incroyable, ouais. C'est Tom Waits, quoi.
Bon, on a les choix musicaux. Tout à l'heure, on aura Bachung, Gainsbourg et Elfie Reiner. Tom Waits, c'est le quota de musique étrangère?
Non, c'est pas le quota de musique étrangère.
C'est la prof de français amoureuse de la langue française qui fait choisir des Bachung, des Gainsbourg.
Alors, évidemment que c'est pas la prof de français, mais c'est en tout cas la personne. Amoureuse de la langue. Je suis devenue prof de français parce que j'étais amoureuse de la langue. Et évidemment, écouter Bachung ou écouter Gainsbourg, ce sont des textes assez très beau. Et peu de gens arrivent aujourd'hui à faire du Gainsbourg ou du Bachung, il n'y en a même pas. Et du coup, Elfie Rainer, bah pour moi, Paco Serrano, qui écrit les textes justement chez Elfie Rainer, a ce côté amour de la langue, alors qu'il est, c'est un Andalou, et qui maîtrise notre langue avec des images très 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 intéressantes. Ouais, donc évidemment, la langue est importante, quoi.
Bon, quand même, sur les questions de Carrefour,
ouais,
de moments où tu as conscience, avec le recul, que ça aurait pu partir ailleurs. T'aurais pu ne pas te brancher littérature, tout ça. Je sais pas, t'avais des copines, c'était pas ça leur truc, non?
Non, j'avais des copines, c'était pas ça leur truc. Ça inquiétait beaucoup ma mère, d'ailleurs, de me voir autant lire.
Ah oui, tu vas t'abîmer les yeux.
Non, c'est tout, mais qu'est-ce qu'elle va devenir?
Ah ouais, ouais.
Et
ah, elle va rien savoir faire comme fille, si elle passe son temps à lire, c'est ça?
Ben, disons que pour moi, c'était vraiment une façon de quitter le réel, quoi. Et de, je m'inventais toutes les histoires possibles quand je lisais. J'avais l'impression de découvrir des mondes totalement parallèles, quoi, et de me dire waouh, la vie, elle est dingue. Parce qu'il se passe à travers ce que je lis, j'ai un pouvoir magique. Je voyage dans chaque livre que je lis, quoi. Voilà.
C'est quoi? C'est la place à l'imagination.
La place à l'imagination et à trouver le réel, du coup, vachement beau, en fait.
Et là, tu veux faire un truc, un tunnel, un Bachung de 9 minutes 40,
ouais,
du genre challenge. Est-ce que tu oseras?
Mais moi, j'ose, hein, y a pas de problème. Hein, je voudrais dire juste aux gens que 9 minutes de Bachung, c'est juste de la pure poésie, ce morceau, aussi bien d'un point de vue instrumental qu'un d'un point de vue texte. Quand on touche à la beauté, il faut savoir prendre son temps pour l'écouter, quoi.
Thank you. Laisse venir. Tu perds ton temps à mariner dans ses yeux. Tu perds ton sang. Tel Attila, tel Othello, tu te noircis. Dans quoi tu te mires? Dans quel étang? À l'avenir, laisse venir. Laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir. Laisse venir. Tu l'auras toujours ta belle gueule, tu l'auras ta superbe, à défaut d'éloquence, tel Machiavel, telle la belle ganse, tel Guillaume Tell. À quoi tu penses? À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir, laisse venir l'imprudence. Tu perds ton temps à te percer un jour. Devant l'obstacle, tu verras, on se révèle. Tel Perceval, tel Casanova, tel Ardec et tel. À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir, laisse venir. Thank you.
L'imprudence d'Alain Bachung, on est dans Qui c'est celui-là ? Et aujourd'hui, qui c'est celle-là ? C'est Morgane Corredou. Avec... On discute comme ça, hein, sur un coin de table, tranquille. Bon, voilà. Alors, tu me dis fin de l'adolescence, un peu moins de livres, mais libre quand même.
J'ai connu beaucoup de racisme dans l'enfance, puisque j'ai grandi à Brest, hein, et que j'étais d'origine indienne, maintenant je suis d'origine algéro-irakienne, on en reparlera peut-être. Et du coup, donc, je suis de couleur, et c'est vrai que grandir dans un endroit où vous êtes constamment la seule personne de couleur fait que vous n'avez pas spécialement de petits copains quand vous êtes jeune. Donc j'avais de très 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 bons amis, que j'ai toujours d'ailleurs certains, mais les petits copains, j'ai vite compris que c'était pas...
T'étais l'indienne.
Ouais, j'étais la fille de couleur et je pense que ça faisait peur, mais j'en veux à personne. Je pense que ça faisait peur à plein de garçons de quand t'as 13-14 ans. Tu réfléchis pas non plus toujours, tu vois. Et je comprends que ça peut faire peur d'avoir une petite copine de couleur parce que autour de toi, il y a que des filles blanches, que des garçons blancs et que si tu sors avec une fille de couleur, t'es un peu différent, quoi. Donc, je pense que c'est un âge où t'as envie de ressembler aux autres et de pas être différent. Donc, du coup, c'est vrai que moi, j'avais pas de petits copains parce que
c'était compliqué pour eux.
C'était compliqué, ouais, potentiellement. Et puis qu'à un moment, je me suis dit, bon, de toute façon, même pas chercher, tu vois. À un moment, tu lâches l'affaire. Moi, la différence, j'ai grandi avec, quoi. Toute petite, depuis 4-5 ans, j'ai bien conscience d'être différente et qu'il se passe des choses. Et c'est comme ça. De toute façon, tu peux pas lutter contre. J'ai toujours été très très fière de ma couleur de peau. Par contre, c'est vrai qu'être confrontée à des gens qui et à du racisme, ça m'a pas rendue triste sur ma couleur de peau. Au contraire, je suis devenue très très fière, quoi. Et voilà.
Et en même temps, ça t'amène à un poste d'observation particulièrement intéressant.
Très.
Hein, de voir si les gens sont à l'aise, mal à l'aise, se posent des questions, se disent elle vient d'arriver, depuis combien de temps elle est là, et d'où tu viens toi. Et ça, c'est des questions du coup que toi, tu t'es posé.
Ben écoute, moi, enfant, je me posais pas beaucoup de questions finalement. Moi, je croyais à ce que mes parents adoptifs m'avaient dit. Hein. Moi, on m'a dit, je suis née à Marseille, un 27 novembre 1972, je suis d'origine indienne. Et j'ai été adoptée par Gilles Corellou et Marie-Bonne Tournelec. Et ben voilà, c'est comme ça. Et c'est une donnée sûre qui ne bougera pas. À partir de là, le reste, je rentre dans une vie qui, comme n'importe qui, enfin... Toute vie est une aventure. La mienne, ben voilà, c'est la mienne, donc elle est ce qu'elle est. Mais c'est vrai que, ouais, la différence, t'en as évidemment conscience très très tôt.
Ah oui, quand on te voit, la première chose qu'on se dit, c'est pas ton air de Brest, hein.
Mais non, mais c'est marrant parce que dès qu'on lit un petit peu des livres sur l'identité, justement, c'est très intéressant de voir que tous les gens qui ont justement des questionnements sur l'identité. Moi, je sais que quand j'étais enfant, on me disait t'es d'où ? Ben, je disais de Brest. Ben non, mais non, t'es d'où ? Je suis bretonne. Mais non, tu es d'où ? Et je m'énervais, je me fâchais en disant je suis bretonne. Parce qu'évidemment, tout enfant a besoin de s'attacher à une identité et que quand quelqu'un vous demande t'es d'où, implicitement, il vous négationne ou il vous refuse l'identité à laquelle vous appartenez, qui est la Bretagne à ce moment-là.
Il vous exclut.
Et il vous exclut. Et c'est pas fait consciemment, on n'est pas dans... Voilà.
Mais l'ostracisme, a priori, est pas conscient. On considère l'autre comme un étranger uniquement parce qu'on le connaît pas. Parce qu'une fois qu'on le connaît, il n'est pas étranger, il est familier.
Oui, mais parce que la couleur de peau ramène à évidemment autre chose que l'image qu'on se fait à ce moment-là du français et encore plus du breton. Donc c'est vrai que je martelais le fait d'appartenir à la Bretagne de façon très forte. Et puis qu'à un moment, je me suis dit, bon, je m'en fous, je sais moi où je suis et d'où je viens, j'ai à le prouver à personne. Donc je peux être du monde, c'est pas très grave, quoi. Mais c'est vrai qu'enfant, se sentir toujours rejeté d'un clan alors qu'on fait tout pour y être, c'est dur des fois, ouais.
ou 56, 7, 8, peu importe, de la rue X, si vous frappez à la porte, d'abord un coup, puis trois autres, on vous laisse entrer, seul et parfois même accompagné. Servante, sans vous dire un mot, vous précède des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent, décorés de bronze baroque, d'anges dorés, d'Aphrodite et de Salomé.
Hôtel particulier de Serge Gainsbourg, c'est quoi? Tu veux transmettre aux nouvelles générations
Hôtel particulier me parle beaucoup. Gainsbourg, déjà pour moi, c'est le maître incontesté. Donc j'adore Gainsbourg depuis toute jeune, hein, depuis de l'adolescence. Pour ses paroles, pour son irrévérence, pour sa décadence. Je suis quelqu'un qui affectionne aussi, qui peut affectionner la décadence. Et hôtel particulier, c'est parce que j'ai grandi au-dessus d'un endroit particulier de mes 7 ans à mes 19 ans. Et c'est vrai que ça me rappelle ce lieu et que j'ai un spectacle qui tourne aussi tout autour du milieu de la nuit.
Voilà, parce que nous y voilà.
Nous y voilà.
Nous y voilà. Parce que jusque-là, elle était sérieuse, elle avait fait des études, elle avait passé des concours, elle les avait obtenus, elle avait eu un travail avec un métier, avec un salaire, avec des revenus. Mais en fait, elle écrit des spectacles, elle le joue dès qu'elle peut.
C'est ça. Non, mais j'ai fait comme mon prof de philo qui me disait, il faut savoir sacrifier un bonheur présent pour un bonheur futur plus grand. Donc j'ai été tout comme il faut jusqu'à mes 40 ans. Et maintenant, l'adolescente en moi se réveille. Et donc, j'ai monté un spectacle à partir de textes que j'écris avec Thierry Sterkeval à la basse, que des textes qui tournent autour du milieu de la nuit. Puisque moi, j'ai grandi, ma mère tenait un bar de nuit de mes 7 ans à mes 19 ans. Donc, j'ai grandi au-dessus de ce bar de nuit. Et c'est vrai que ça a été mieux que la télé, quoi, pour apprendre à découvrir les gens, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais je peux justement aussi être dans la contemplation totale de ce qui se passe. Et là, j'ai appris beaucoup sur la nature humaine. Et ce spectacle, chaque texte est comme un court-métrage qui raconte un moment de la nuit, un univers ou un personnage de nuit. Ouais.
Que tu écris ?
Que j'écris, ouais.
Que tu as dit plusieurs fois déjà ?
Oui, que j'ai interprété plusieurs fois déjà avec Thierry. Là, on est en train de voir pour savoir si un ami batteur nous rejoindrait dans notre petite folie, quoi. Ce serait super d'ailleurs.
Ça serait super, pourquoi ? Parce que t'as besoin de rythmer plus qu'avec la basse.
C'est pas une question de rythme, je crois que c'est pour moi une question de tout et de faire un vrai spectacle. J'ai besoin d'entendre d'autres couleurs aussi.
Bon, en fait, tu voulais être une rockstar et puis c'est tout.
Peut-être, mais je sente comme un pied.
Ah.
Donc, du coup, je parle. Je chante très bien, mais sous la douche seulement. Ma fille pourrait le confirmer.
On a l'affiche déjà, le pied qui chante.
Voilà. Et en fait, pourquoi un autre musicien ? Parce que je suis quelqu'un d'un peu perfectionniste aussi, qui fait que dès le départ, avec ce spectacle, je sais à peu près où je veux aller. Qu'avec Thierry, on a super bien bossé. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'adore bosser parce que il est très bon dans ce qu'il fait, quoi. Mais j'avais envie qu'un autre musicien apporte aussi quelque chose d'autre, une autre couleur. J'ai envie que la musique ait beaucoup de place dans ce spectacle. Je suis quelqu'un qui a pas peur de perdre de la place parce que j'ai pas la sensation d'en perdre, au contraire, mais d'en gagner. Voilà, c'est important, c'est un tout. Les textes.
Mais dans ton esprit, il y a tes textes, il y a ce qu'a déjà fait Thierry avec la basse, mais il peut y avoir des propositions de musiciens.
Bien sûr, moi je suis très curieuse, au contraire, il peut y avoir des propositions de musiciens, je suis extrêmement curieuse, j'attends que ça, quoi. Au contraire, allons-y, quel risque on prend ? Aucun. Donc, voilà, oui, super.
Bon, et là, le spectacle, il s'appelle comment ? Où est-ce qu'on peut le trouver ? Est-ce qu'il y a un site où on peut aller pour voir quand ça sera annoncé, si ça joue quelque part, je sais pas, à Chaussée aux Moines ?
Alors, le spectacle s'appelle Les Grands Paons de Nuit. Pourquoi Les Grands Paons de Nuit ? Parce que j'explique, ce sont des papillons de nuit que l'on trouve dans le coin, ici, le Tarn, qui sont très très grands, ils sont grands comme... moi, j'en ai déjà vu grands comme la main. Évidemment, ce sont des papillons de nuit, donc le spectacle s'appelle Les Grands Paons de Nuit. Sur la page Facebook des Grands Paons de Nuit, on peut avoir toutes les informations. Il y a des vidéos sur YouTube, mais malheureusement, moi, les vidéos, je suis pas très fan, parce que ça nous donne juste... j'ai l'impression qu'on regarde un petit peu... de façon.
Mais oui, mais les jeunes, ils sont youtubeurs maintenant, hein. Ils
consomment depuis 3 minutes. Je pense pas que ça donne envie, en fait, les vidéos. Je sais pas. Je suis pas très contente des vidéos parce que on a fait un plan fixe comme ça, vite fait, un peu à l'arrache, et que la vidéo, elle rend pas l'atmosphère ni. C'est un spectacle intimiste en plus, donc c'est quelque chose qu'on crée avec Thierry, cette intimité. Et moi, je suis un peu.
Tu veux me dire, c'est une émission de radio en réalité.
Ça pourrait être presque ça. Hein. On pourrait
plus qu'une vidéo.
Je pourrais presque venir avec Thierry te faire le spectacle dans le studio.
Alors là, hein, ça je le note, c'est enregistré. Alfie Reiner, tu me dis, c'est parce que quand même il y a des artistes locaux, on n'est pas obligé de prendre que des grands monstres. Bachung, on a eu Tom Waits, Gainsbourg, Alfie Reiner.
Alfie Reiner parce que comme je suis bénévole à la programmation à Même Sans le Train, Alfie Reiner, je les ai rencontrés, sont des musiciens de Toulouse. Au-delà du fait que ce sont devenus de très bons amis, il y a vraiment une patte musicale, quoi. Il y a quelque chose. Pour moi, c'est un groupe qui mériterait d'être connu. Paco a des textes vraiment incroyables. Ça a été une vraie découverte, quoi. Alfie Reiner, c'est un très très bon groupe de la scène toulousaine. Voilà, qui fait pas du commercial. Alors évidemment, comme ils font pas du commercial, ça se voit un peu moins que toutes les merdes qu'on peut entendre, sur certaines radios, mais pas SCFM, évidemment. Voilà. Mais c'est et puis c'est promouvoir aussi un groupe qui est du coin, quoi. Et je trouve ça important.
Yeah.
à la vie comme l'ombre d'un épouvantail délabré. Moi, galant épileptique, matador de poules, en attendant un train passé il y a longtemps, enchaîné à ce coin stérile de l'histoire de l'homme. Moi, fils bâtard d'un bâtard mémorable, d'un bâtard gaucher dyslexique, aux ongles noircis de creuser des reproches. Je suis là, à me regarder les chaussures d'imitation cuir, pour ne pas me découvrir reflété dans une vitre, sur une pierre, pour ne pas me découvrir absorbant de la fumée noire, absorbant de la fumée noire. Je suis là, épuisé de ne pas aller, épuisé de voir des antennes paraboliques, des escaliers, des offres électroménagères, épuisé de voir passer les heures, les jours, les mois, épuisé d'entrer dans des établissements publics, de remplir des formulaires d'échecs, des formulaires et encore d'échecs, et encore des formulaires et d'échecs, épuisé par une fatigue préhistorique, par une fatigue. Il y a des rêves fossiles qui brûlent. Il y a des mouches vertes sur les rêves fossiles qui brûlent. Il y a des hôpitaux sous les trottoirs, des cordonniers qui s'occupent des opérations de la cornée, des opérations du foie. Je suis là à regarder passer les mouches. Les mouches avec les pieds parallèles aux épaules. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Je suis là à faire de l'ombre. J'entre dans les parkings, dans les bureaux de tabac. Je regarde, je sens, je lis les pages des faits divers. Accident, vendetta, assassinat par amour. Assassinat par amour, par amour. Il y a des mouches vertes sur mes rêves. Je dis ressort si je mange au pas aujourd'hui. Je dis ressort. Regarder sans voir, à voir sans entendre, à laisser de la semelle dans les pavés de cette ville comme les autres. Un jour de plus, un jour de moins, un jour de moins. Je traverse les parcs, les ronds-points, les bâtiments publics, en faisant des calculs, équations, avec deux inconnus, X, Y, avec trois inconnus et aucune certitude, avec aucune certitude, des équations, avec aucune certitude, aucune. Il arrive que je me lasse d'être homme. 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 Il arrive que je me lasse d'être homme.
La Kund, Elfie Reiner, le dernier choix musical de Morgane Corélou, avec qui on a déjà passé 50 minutes, il ne nous reste plus que 5 minutes, et là, en 5 minutes, qu'est-ce que tu veux? Tous les trucs qu'on n'a pas pu évoquer,
c'est dingue,
ouais. Y en a quand même qu'on ne peut pas occulter, quand même.
Je ne sais pas de quoi tu veux parler.
Je sais pas, toi, là, maintenant, les crampons de nuit, tu vas avoir un batteur, tu vas le jouer, on le trouve sur
Facebook,
la page Facebook, les crampons de nuit. T'as fait récemment une découverte quand même dans ta vie qui fait que t'es plus indienne.
Et non, ouais, voilà, j'ai fait une découverte. Pendant 42 ans, j'ai cru que j'étais d'origine indienne. Et puis, j'ai fait des recherches sur mes origines personnelles auprès du CNAOP, hein, qui est un organisme maintenant d'État, qui permet depuis 2002 aux enfants nés sous X de retrouver leurs origines personnelles. Et donc, j'ai retrouvé, en effet, ma mère biologique, mais pas seulement ma mère biologique, puisque j'ai retrouvé mon père biologique et mes frères et sœurs biologiques. Et donc...
C'est-à-dire que là, il y a une famille dont tu sais que tu aurais pu grandir là.
Ben, j'aurais pu grandir là, et donc j'ai appris que j'étais d'origine algérienne par ma mère et d'origine irakienne par mon père.
Donc et que si tu es né sous X, c'était que quelque part, ces parents-là savaient qu'ils ne pouvaient pas t'offrir l'accueil mérité ou pas?
Oui, tout à fait, parce qu'ils avaient déjà beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'argent, et que en effet, à un moment, moi j'étais la sixième qui arrivait, la dernière est la sixième, et s'est posée pour eux la question de... Oui, on a envie de lui offrir une meilleure vie, et moi je leur en veux pas du tout, au contraire, je pense que Je pense que c'était, j'aurais peut-être pas la vie que j'ai aujourd'hui, et aujourd'hui je suis très fière et pleinement satisfaite de ma vie, alors je crois que j'en voudrais même pas une autre. Donc
Mais maintenant t'as deux familles.
Maintenant j'ai deux familles, je suis donc, avant je disais que j'étais indo-marseillo-bretonne, maintenant je suis donc algéro-iraco-indo-marseillo-bretonne. Voilà, comme ça le bagage il est bien planté. Ça envoie du lourd direct. Donc on enlève indien, mais j'arrive pas à l'enlever, moi, par contre.
Oui, parce que du coup, ta curiosité s'est penchée là. Hein. Si j'ai des origines indiennes, c'est quoi la civilisation indienne?
Ben, je suis allée deux fois en Inde avec mon sac à dos. Voilà, après c'est drôle parce que l'Inde, en effet, était mes origines. J'y suis allée. Quand j'y suis allée, les Indiens me retournaient que j'étais indienne. Voilà. Donc il y avait une part de moi qui se sentait avoir des racines, et pourtant je ne me sentais pas proche non plus de cette origine. C'est vrai que tout me ramenait à la Bretagne, et qu'aujourd'hui, maintenant que je sais que je suis algéro-irakienne, c'est pareil, je me sens pas algéro-irakienne. Je me suis jamais sentie indienne, je me sens pas algéro-irakienne, je me sens vraiment française, quoi. Et ma culture, mes racines sont en France. Alors oui, mon sang est d'une origine qui vient d'ailleurs, mais ce sang qui vient d'ailleurs, je le respire pas, je le vis pas, je me sens totalement française du coup.
Oui, voilà, t'es un prototype de ce qu'est la France.
Je suis un prototype de ce qu'est la France, ouais, exactement. Ouais.
Le droit du sol, le droit du sang, les origines, l'identité, tout ça, c'est une histoire d'adhésion.
Sur l'identité et les origines, évidemment, l'identité, c'est particulier. L'identité, c'est à la fois l'identité que nos parents nous transmettent. C'est aussi une supra-identité qui vient de l'environnement et de la culture et du milieu dans lequel on grandit, qui peut être indépendant de la famille. L'identité, c'est aussi celle qu'on se forge au fur et à mesure de sa vie. Moi, ma vie, je la passe en France depuis 43 ans maintenant. C'est évident que l'Inde, quand j'y suis allée, je me suis pas du tout sentie indienne. Par contre, c'était intéressant pour une fois de ressembler à des gens partout. Ça, c'était une expérience incroyable que j'avais jamais faite dans ma vie, qui est de se trimballer dans la rue en se disant que la majorité vous ressemble et que vous ne faites plus partie de la minorité qui ne vous ressemble pas. Ça, c'était assez agréable, par contre.
Et il est quand même pas question que tu t'en ailles sans nous faire un échantillon des grands pans de nuit, quand même.
Eh ben, écoute, ça va être compliqué sans Thierry, mon musicien, mais on pourrait peut-être faire écouter un Lilith. Et puis là, je peux te faire en impro, vite fait, préface de Léo Ferré, qui est le dernier texte que nous jouons, qui clôt le spectacle. Si je me souviens de tout, voilà, je peux te le faire comme ça, sans rien, à l'arrache. La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction, elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. À menstruel, on préfère périodique, et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie, à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une seule caste, d'un parti ou du tout Paris. La poésie est une clameur, elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe que dans la corde vocale, tout comme le violon prend le sien dans l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. Et la pensée mise en commun n'est qu'une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd, il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Ruteboeuf avait faim, Villon volait pour manger, tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique, mais nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe, et pour que le désespoir même se vende, il ne se reste plus qu'à en trouver la formule. Tout est prêt, les capitaux, la publicité, la clientèle. Mais qui donc inventera le désespoir ? Avec nos avions qui dament le pion au soleil, avec nos magnétophones qui se souviennent de nos voix qui se sont tues, avec nos âmes en rade dans les rues, nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer la révolution. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat.
Comment tu trouves ça, toi ?
Je trouve que c'est très bien, qu'elle a bien réussi.
Formidable. Bah, écoute, Morgane, si tu as quelque chose à rajouter, c'est maintenant.
Bah écoute, non.
Non, ça parce va. Que 43 ans, moi je te propose que cette émission-là, on peut la refaire dans 10 ans, tu auras encore fait du parcours, ça méritera.
Bah, j'espère, ouais, j'espère que je ne vais pas m'arrêter là. Enfin, moi, le jour où je m'arrête, c'est que je suis morte, hein, mais voilà.
Morgane, je te remercie.
De rien, merci Johan.
On se quitte sur Lilith, qu'on peut entendre sur YouTube, hein, un extrait du spectacle Les Grands Pans de Nuit, avec Thierry Segval à la basse.
C'est la nuit noire et la lune qui vrille. Je suis Lilith, tu me veux, je te tiens. Au royaume des loups, au royaume des chiens, je suis la reine des putains. Sors ton flingue, tes dollars et l'alcool coule à flot de mes mains, de mes seins. Aux néons insomniaques sortiront de terre les démons, les passions, dévoreurs d'illusions. Les femmes sont belles, assassines de tes peines jusqu'au petit matin. À leurs bras, tu verras se lever des vautours, des anges, des boas, myriades volatiles dégustant les soleils de Satan. Peuvent bien pleurer sur moi, il n'est rien, je suis tout. Dans mon ombre se pavane la luxure, arrachant l'innocence et l'amour. Un j'en foutre. Mesdames, sous vos jupes, je glisserai la main, déniaisant votre frêle pudeur pour 3 sous, une pluie de champagne. Je ferai de vous mes saphiques compagnes. Soyez choqués, messieurs, dames, de votre rougeur au front, je ferai un drapeau, sans foi ni loi, avec ma horde de femmes impies et de soulards infidèles. Nous monterons dans le monde des vivants, répandre la honte et la dépravation. Prenez garde avec l'aube naissante, il vous faudra traverser l'Achéron. N'oubliez pas votre pièce pour le passeur des âmes. De l'autre côté de la rive, aux lumières jaunes des tungstènes crépitants, vous assisterez à la métamorphose de l'homme. en poisson.
C'était Qui c'est celui-là ? Une émission de rencontre avec quelqu'un. À la prochaine fois.
Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là.